Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus bloß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Onde Femme. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme, Radio Zone 93.8 et Remue Ménage, 17h-18h30. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose la première émission d'une série d'émissions qui auront lieu une fois par mois sur le thème « Histoire de femmes ». Peut-être avez-vous découvert cette collection magnifique de l'histoire des femmes. Il y a un tome pour chaque siècle. Eh bien, nous n'allons pas du tout suivre une logique chronologique puisque la première série que je vous propose évoquera le 19e siècle, ce 19e siècle qui a vu la naissance du féminisme. Et puis, en deuxième partie d'émission, toujours par rapport au 19e siècle, eh bien, puisque cette collection évoque l'histoire des femmes, mais histoire des femmes en Occident, eh bien de découvrir un tout petit bout de l'histoire des femmes ailleurs qu'en Occident, par le biais de la musique arabe classique du 19e siècle, en compagnie d'une femme magnifique, Aïcha Redouane. Voilà, c'est le programme aujourd'hui dans Remue Ménage. J'espère que vous serez avec nous jusqu'à 18h30, où vous retrouverez les informels de Radio Pleine Lune. Mais tout de suite, un peu de musique avec Lucide Beausonge.
Tu demandes toujours ce qu'on attend de toi, de ta voix, de tes pas et des sourires que tu ne donnes pas. Avec ton regard qui nuance les mots, les gestes qu'on ne retient pas et qui s'entassent, prennent de la place.
Lucide Beausonge, toujours dans Onde Femme, Remue Ménage 93.8. Dans quelques instants, premier chapitre de l'histoire des femmes au 19e siècle.
suis une africaine, arrachée à sa savane. Chère comme ces lianes, dans des cages glacées, où l'on m'a oublié pour la rentabilité, et aussi pour la culture, pour la caricature. Je suis une africaine. Je suis une africaine, exilée à Paris, pour des notes lesbiennes et des mots sans abri. Je suis une africaine.
L'Africaine de Lucide Beausonge. Alors, je vous le disais, aujourd'hui, première émission d'une série qui aura lieu une fois par mois sur le thème « Histoire des femmes de l'Occident » dans une collection magnifique qui est parue aux éditions Plon, dirigée par Georges Duby et Michel Le Perrot, qui tous deux ont pris en charge cette tâche énorme qui est celle d'écrire l'histoire des femmes. Alors, je vous lis juste... si vous voulez, l'introduction qu'ils font à l'écriture de tous ces tomes. Sont parus aujourd'hui plusieurs de ces tomes dans cette collection. On est arrivé petit à petit à découvrir le tome numéro 1 sur l'Antiquité, le 2 sur le Moyen-Âge, le numéro 3 sur le 16e jusqu'au 18e siècle. Je vous ferai découvrir le tome numéro 4, 19e siècle, et il existe un tome numéro 5 sur le 20e siècle. Georges Duby et Michel Perrot sont les deux responsables de cette immense tâche. Alors je vous lis ce qu'ils ont écrit en préface de tout cet immense travail. Pendant longtemps, les femmes ont été laissées dans l'ombre de l'histoire. L'essor de l'anthropologie et l'accent mis sur la famille, celui de l'histoire des mentalités, plus attentives au quotidien, au privé et à l'individuel, ont contribué à sortir les femmes de cette ombre. Plus encore, le mouvement des femmes elles-mêmes et les interrogations qu'il a suscitées. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Se disaient-elles. Et elles entreprirent dans et hors des universités des enquêtes pour retrouver les traces de leurs aïeules et surtout pour comprendre les racines de leur domination et les rapports de sexe à travers l'espace et le temps. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le titre « Histoire des femmes » est commode et si beau. Mais il faut récuser l'idée que les femmes seraient en elles-mêmes un objet d'histoire. C'est leur place, leur condition, leur rôle au pluriel et leur pouvoir au pluriel, leur forme d'action tout aussi au pluriel, leur silence et leur parole que nous entendons scruter, la diversité de leur représentation, qu'elles soient traitées comme une déesse, une madone, une sorcière, tout cela que nous voulons saisir dans leur permanence et leur changement. Histoire résolument relationnelle qui interroge la société tout entière et qui est tout autant histoire des hommes. Histoire de longue durée, de l'Antiquité à nos jours, 5 volumes qui reprennent les divisions chronologiques qui scandent l'histoire occidentale. Car c'est d'elle seulement qu'il s'agit. La Méditerranée et l'Atlantique sont nos rivages. On rêve d'une histoire des femmes dans le monde oriental ou le continent africain. Eh bien, il appartiendra aux hommes et aux femmes de ces pays de l'écrire un jour. Féministe, notre histoire des femmes, dans la mesure où elle se situe dans une perspective égalitaire. Cette histoire se veut ouverte à des interprétations différentes, histoire soucieuse de problématiser, mais refusant toute langue de bois. Histoire plurielle, dans la multiplicité des figures évoquées, comme dans la naïveté des points de vue. Ce travail est surtout celui d'une équipe. De nous deux, Georges Dulby et Michel Perrault, qui en assurent la marche d'ensemble. Chaque volume est assumé par une ou deux responsables, chacune par tome. Et puis, chacune a réuni une équipe de rédaction de leur propre tome au gré des compétences, des désirs, des disponibilités. Au total, plus de 68 personnes ont collaboré à la rédaction de l'histoire des femmes en Occident. Non pas certes la totalité de celles et de ceux qui œuvrent dans ce domaine en Europe et aux États-Unis, mais en tout cas un échantillon que nous espérons représentatif et opératoire. Alors bilan provisoire, instrument de travail, plaisir de l'histoire avec un grand H, lieu de mémoire, telle sera, nous l'espérons, cette histoire des femmes en Occident, à laquelle, dans l'Europe qui s'annonce, nous laisserons ici son beau titre. Telle était l'introduction que vous proposait à l'histoire des femmes en Occident, Michel Perrault et Georges Dulby. Tout au long de cette première émission, pour découvrir l'histoire des femmes en Occident au XIXe siècle, eh bien, nous serons accompagnés par Clara Schumann. Clara Schumann, compositrice, née en 1819, morte en 1896, donc toute du XIXe siècle. Cette femme qui a trop disparu derrière le nom de son mari, Robert Schumann, à qui elle a consacré beaucoup de son énergie et de sa force et de son temps, délaissant peut-être un peu trop son propre travail de compositrice et de pianiste. Pourtant, heureusement, il nous est resté des œuvres importantes de Clara Schumann et c'est de celle-ci que nous aurons envie de parler aujourd'hui, tout du moins que nous aurons envie d'entendre entre les lignes écrite par toute l'équipe réunie par Geneviève Fraisse, puisque Geneviève Fraisse est la personne responsable de ce tome numéro 4 de l'histoire des femmes en Occident, qui nous parle des femmes au XIXe siècle. L'image d'un XIXe siècle sombre et triste, austère, contraignant pour les femmes, est souvent une représentation assez spontanée que nous nous faisons. Certes, ce siècle a repensé la vie des femmes comme le déroulement d'une histoire personnelle soumise à une codification collective précise, socialement élaborée. On aurait tort de croire cependant que cette époque est seulement le temps d'une longue domination, d'une absolue soumission des femmes. Car ce siècle signe la naissance du féminisme, mot emblématique qui désigne aussi bien des changements structurels importants dans le monde du travail, comme le travail salarié, comme l'autonomie des individus civils, le droit à l'instruction, que l'apparition collective des femmes sur la scène politique. Aussi, faudrait-il dire plutôt que ce siècle, le 19e, est le moment historique où la vie des femmes change, plus exactement, où la perspective de la vie des femmes change. Tant de la modernité où est rendue possible une position de sujet, d'individu à part entière et actrice politique, future citoyenne. Malgré l'extrême codification de la vie quotidienne féminine, le champ des possibles s'agrandit et l'aventure n'est pas loin. Le 19e siècle s'ouvre et se ferme sur deux événements qui bouleversent l'histoire des hommes, des êtres humains, une révolution, une guerre. Les historiens le parcourent de 1789, la révolution, à 1914, la guerre, sans qu'on puisse dire pour autant que ces événements produisent l'essentiel du sens de cette époque. Pour ce qui est des femmes, cependant, on remarquera qu'une révolution comme une guerre peut les appeler à la tâche, tout en sachant ensuite, plus ou moins vite, les congédier. On reviendra sur ce jeu subtil de la part des hommes entre l'invite et le rejet, l'exclusion et la participation des femmes aux affaires qui concernent l'État et la nation. Alors si la modernité est une chance pour les femmes, c'est parce que les conséquences des changements économiques et politiques, sociaux et culturels propres au XIXe siècle leur sont en fait favorables. En effet, plusieurs éléments sont déterminants. Tout d'abord, l'apparition d'une histoire de l'humanité suppose que les femmes aussi ont une histoire, que leur condition de compagne de l'homme et de reproductrice de l'espèce est moins immuable qu'il n'y paraît, et que leur essence apparemment éternelle de femme peut être soumise à des variations multiples, promises à une vie nouvelle. Les utopies socialistes, même si elles sont non-lieux d'histoire, supposent néanmoins un avenir différent du présent. Là sont repensés le fonctionnement de la famille, la relation amoureuse, la maternité, comme les activités sociales féminines. Les théories évolutionnistes, à l'inverse, réfléchissent sur l'origine, sur le commencement historique des sociétés, notamment de la famille, du patriarcat ou du matriarcat. Que l'humanité est une histoire, une origine, un passé, un avenir, est sûrement une promesse pour les femmes. Ensuite, la révolution industrielle, 1750, début, comme l'avènement progressif d'un espace politique démocratique, se révèle malgré la violence avec les femmes, y sont parfois traitées, des lieux sociaux où l'individu comme être à part entière est privilégié. En ce sens, l'individu féminin pourra devenir semblable à l'individu masculin, aux travailleurs et aux citoyens, pourra rompre des liens de dépendance économique et symbolique qui l'attachent au père et au mari. Une image, il faut attendre le XXe siècle pour qu'une femme dispose librement de son salaire. Mais encore faut-il comprendre pourquoi cette ambivalence, pourquoi le travail des femmes est autant le lieu d'une surexploitation que d'une émancipation, la société politique un espace d'exclusion puis de reconnaissance. Ce sera le troisième point de ce siècle. L'ère démocratique n'est pas a priori favorable aux femmes. En son principe, elle affirme qu'il faut exclure les femmes de la chose publique, les circonscrire dans l'espace domestique. On peut dire en un mot pourquoi. Le régime féodal du Moyen-Âge ne suppose pas que le droit, ou plutôt le privilège de quelques-unes, implique qu'il devienne une règle pour toutes les femmes. Le régime démocratique, en revanche, sous-entend que ce qui est valable pour l'un l'est pour tous. Ainsi, vaut-il mieux n'accorder un droit à aucune plutôt que de le donner virtuellement à toutes, plutôt que d'instaurer ainsi, croit-on, une rivalité stupide entre l'homme et la femme ? car il s'agit désormais de toutes les femmes et non plus seulement de quelques femmes prises dans un débat sur la femme en général. Mais la démocratie n'a pas cependant érigé en système cette exclusion. Surtout, elle portait en elle-même la contradiction de ce principe d'exclusion en affirmant l'égalité des droits, en laissant place à une vie politique républicaine. Ainsi est né dans tout l'Occident le féminisme dont l'objectif est l'égalité des sexes et la pratique d'un mouvement collectif, social et politique. On trouve des gestes et des écrits féministes antérieurement à ce siècle, mais le féminisme qu'on aperçoit en filigrane dans la pratique révolutionnaire de 1789 va surgir en fait après 1830. Ce siècle alors semble faire charnière dans la longue histoire des femmes, comme si on y redistribuait les cartes traditionnelles, celles qui se jouent entre le travail à l'atelier ou au domicile et la famille, idéal de vie domestique et valeur utile pour le service social, entre le monde des apparences, parure et plaisir, et le monde de la subsistance, apprentissage ou exercice d'un métier, entre le lieu de la pratique religieuse, exercice spirituel et règles sociales, et le nouvel espace d'éducation, l'école laïque. On redonne les cartes et de nouveaux enjeux se laissent apercevoir. Si la vie des femmes se transforme, comment savoir ce qu'elles en pensent ? Adhèrent-elles aux nouvelles règles proposées ? Consentent-elles à l'ordre qu'on leur impose ? Difficile à savoir, tout comme il est malaisé de repérer toujours les pratiques de résistance, de refus de transgression. De même, si la femme moderne perd des pouvoirs, ceux liés au rang ou à la terre, à l'entreprise familiale ou à la structure d'habitation, si la bourgeoise victorienne peut sembler infiniment plus enfermée que l'aristocrate des Lumières dont Madame de Staël regrettait la liberté, eh bien, elles en gagnent d'autres, et notamment celui de la mère. On ne saurait voir, en effet, dans la maternité survalorisée par ce siècle, le simple lieu d'une assignation à une fonction. Il s'agit de faire des hommes, disait Joseph de Maistre, le grand accouchement qui n'a pas été maudit comme l'autre. Alors, dans la soumission comme dans l'émancipation, la femme saura jouer de cette maternité comme d'un pouvoir ou se réfugier ou comme d'un moyen pour obtenir d'autres pouvoirs dans l'espace social. L'image de l'institutrice offrant à la société ses qualités maternelles est une claire expression du passage de la mère institutrice à l'institutrice mère. Les enjeux changent aussi à travers le siècle. Les normes édictées en son début sont des normes collectives définissant une fonction sociale, celle de l'épouse, de la mère, réglementant les droits de la femme en fonction de ses devoirs, désignant finalement les femmes comme un groupe social dont le rôle, comme le comportement, doivent être uniformisés, donc idéalisés en quelque sorte. Or, cette représentation totalisante s'effrite progressivement et les identités féminines semblent se multiplier. La mère, la travailleuse, la célibataire, l'émancipée, etc. sont des qualités propres à l'une ou l'autre femme, vécues de façon contradictoire, souvent soumises à des tensions, qui annoncent la vie des femmes du XXe siècle. De ce point de vue, la diversité des formes de la solitude féminine est exemplaire des jeux complexes du hasard, de la nécessité et du libre choix. De fait, il était impensable qu'un modèle unique de femme fût respecté, qu'aucune transgression ne vint forcer les verrous fermant l'espace domestique, les limites apposées à la vie civile féminine, les interdictions d'accéder au monde politique. Avec plus ou moins de naïveté ou de conscience, les femmes ont refusé la normalisation d'une existence présentée pourtant sous la forme de l'idéal. Et même lorsqu'elles ont cru à cet idéal et cherché à l'approcher, elles l'ont transformé. Les unes ont cultivé leur esprit, et pas seulement pour faire le bel esprit en société. D'autres sont partis voyager, dans un esprit missionnaire ou par goût de l'aventure. D'autres encore sont venus dans les villes chercher un emploi, perdant ainsi le soutien familial. D'autres enfin sont descendus dans la rue ou dans les assemblées politiques pour dire les injustices, celles faites à leur sexe, à leur classe, à l'esclave aussi. De plus, on peut douter que le XXe siècle était aussi pudibond qu'il le dit. Le XIXe siècle, pardon. De plus, on peut douter que le XIXe siècle était aussi pudibond qu'il le dit et la vie sexuelle aussi simplifiée qu'il le souhaitait. Car si le désordre, même organisé, est le fait des hommes usant des femmes, de la petite ouvrière enceinte à la prostituée tuberculeuse, les femmes, cependant, ne sont pas seulement des victimes. Même si l'amour libre est souvent un piège, même si les vies sexuelles marginales telles l'homosexualité sont dangereuses à vivre. En insistant sur le rapport entre la suggestion et la liberté, les auteurs du tome numéro 4 de la collection L'histoire des femmes en Occident n'ont sans doute pas donné l'exact tableau de la vie des femmes au XIXe siècle, respecter les groupes sociaux et professionnels. À combien, en effet, faut-il chiffrer le nombre de paysannes, par exemple, dont la quotidienneté se modifie peu en une centaine d'années ? Elles représentent plus des trois quarts des femmes au moins, et on ne saurait l'oublier. Simplement, l'histoire des femmes racontée ici n'est pas celle des travaux et des jours, l'histoire si volontiers nommée l'histoire de la condition des femmes. On s'intéresse plutôt à ce qui change, à ce qui rend pertinent une histoire des femmes, là où elles se révèlent non comme des figurantes, mais comme des actrices de l'histoire. Il est un autre manque plus difficile à expliquer, qu'on remarquera parfois au fil des textes, de ces nombreux textes que nous allons découvrir au cours de ces émissions. Appelons-la la réalité concrète, le fait matériel ou social, les structures économiques, le fonctionnement des institutions religieuses par exemple, le jeu entre les classes sociales. Tout ça est souvent absent de l'analyse. Ils apparaissent dans des textes en même temps que d'autres facteurs qui sont clairement de l'ordre des représentations, images et discours. Ce n'est pas le fruit du hasard, semble-t-il, ni même des intérêts des chercheurs d'aujourd'hui, plus portés à réfléchir sur les mécanismes de la perception des femmes par les hommes et des femmes par elles-mêmes. Il semble que ce soit inhérent à l'histoire des femmes que de toujours être sur ce plan de la figure, car la femme n'existe jamais sans son image. Ainsi, les femmes sont symboles, Marianne de la République, muse des beaux-arts, illustration, personnage de roman, gravure de mode, reflet au miroir de l'autre, disent les philosophes. Et c'est à partir de ces images qu'elles se changent aussi elles-mêmes, car elles savent que c'est un piège. Il n'existe pas de féminisme sans sa caricature, sans qu'on en dénonce les excès d'expression de comportement, masculinité, grossièreté, fureur. Les auteurs de cette collection ont donc choisi que le chapitre illustré fût accompagné d'un commentaire raisonné, au plus loin de l'imagerie habituelle. C'est pourquoi cette histoire des femmes du XIXe siècle, si elle veut prendre de la distance face à une nécessaire histoire des représentations, eh bien elle laisse entendre que ce titre est peut-être un peu trop simple, que l'histoire des femmes est aussi celle des hommes, du rapport entre les sexes, de la différence des sexes. On verra que cela varie d'un texte à l'autre, suivant l'intérêt de l'auteur, mais aussi du thème abordé. Le corps et le cœur d'une femme se décrivent dans le vis-à-vis de l'homme. Le droit et la philosophie pensent nécessairement le rapport sexuel. Les codes religieux, les représentations littéraires et iconographiques sont eux aussi interrogés sous l'angle de la différence des sexes. De même, le discours de l'économie politique, particulièrement symptomatique d'une confusion entre l'ordre naturel et l'ordre social, entre la division sexuelle du travail et le marché de l'emploi réparti entre hommes et femmes. Où l'on voit bien que les métiers de femmes définis en apparence par leur qualité naturelle sont en fait le pur produit d'un travail du langage. Dès lors, la critique du langage devient, en histoire des femmes, une opération indispensable, sinon prioritaire. Plus qu'ailleurs s'impose une réflexion sur la manière dont les faits et les récits qui les mettent en scène ont été agencés. Et ce pourrait être l'apport spécifique de cette collection « L'histoire des femmes » à une histoire plus générale, de plus en plus soucieuse de s'interroger elle-même comme processus de réflexion. L'ambition occidentale de cette histoire des femmes paraîtra, pour ce qui est du XIXe siècle, particulièrement justifiée, pourtant peut-être un peu démesurée en raison de la spécificité des histoires nationales et de l'ampleur des travaux récents qu'elles ont suscités, des publications de ces deux dernières décennies, qui sont en nombre considérable, il faut bien l'admettre, au vrai, et en paraît tous les jours. Vérité d'évidence, mais qu'il faut rappeler, on ne saurait dire que l'Occident sans préciser qu'il est fait de pays, de nations diverses, qu'il comprend l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, de la Baltique à la Méditerranée, mais aussi le continent nord-américain, qu'il existe parfois des décalages historiques ou culturels entre l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique ou la Suisse, etc. Et que les transformations politiques semblent s'essayer d'abord en France, en Révolution et la République laïque, de même les grandes évolutions religieuses ont redéfini la femme catholique notamment. Et inversement, les mutations culturelles paraissent plus anglo-saxonnes ou germaniques, telles par exemple le féminisme de ces pays-là, parfois moins politique, mais très novateur dans ses pratiques. Autre exemple encore de diversité, le Code civil français semble être un modèle pour la législation moderne, mais ce sont les philosophes allemands qui donnent le ton tout au long du siècle. Entre l'Europe et l'Amérique du Nord, la tendance à l'innovation bascule déjà. Créateur dès la guerre d'indépendance, les États-Unis sont très tôt porteurs de modèles enracinés dans la revivance protestante, inventeur de pratiques démocratiques, à quoi s'ajoute l'expérience de l'expansion vers l'Ouest et les apports des migrants. Et le continent nord-américain constitue en lui-même un univers de nouveaux rapports de sexe dont on trouvera ici un premier écho. La New Woman, la nouvelle femme, naît des expériences des femmes de Boston, comme celle des femmes juives de New York. Elle fait en Europe un glorieux retour et hante les interrogations sur l'identité des sexes. Alors dans cet Occident très élargi, à la fois plus homogène et plus divers que dans les siècles précédents, il existe donc des divergences de comportement ou nuances d'expression que la diversité des féministes rend bien visible, d'autant que sa dimension internationale et l'intensité de ses communications sont surprenantes. Ainsi commence un bouleversement des rapports entre les sexes qui perdure aujourd'hui. Recomposition incessante, interminable peut-être, qui nous questionne évidemment, comme le faisaient déjà les hommes et les femmes de la belle époque qui fut au...